vous n'êtes pas gâtés aujourd'hui. Le titre, ce sera la religiosité ou la foi. Je le dis parce qu'après, sinon, il vient nous le demander. J'aurais bien mis en sous-titre, mais ça passera pas pour l'enregistrement, mais Saül ou Jonathan. Vous allez voir à peu près où on va atterrir. Hein. On va atterrir dans 1 Samuel au chapitre 13. Donc le premier verset, c'est juste l'introduction, on va voir tout le reste après. Saül était âgé de 1 ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Donc certains passages laissent le... Donc j'attaque brut de fonderie, hein, je suis désolé, il n'y a pas d'intro, mais ça m'a été livré brut de fonderie comme ça en dernière minute. Certains passages disent qu'il avait 30 ans à ce moment-là, donc ça dépend des manuscrits en fait, hein, mais la date n'est pas claire. D'autres laissent des 3 petits points vides comme ça dans beaucoup de traductions, hein, tout ce qui est lié à la seconde en fait c'est laissé vide. Et bon voilà, ce verset-là il ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je vais passer rapidement dessus. Mais on ne sait pas en fait quand est-ce que ça se passe réellement ça, à quelle période de la vie de Saül, on a quelques indices après, mais c'est pas évident. Ce verset-là, je trouve, dans ma conception à moi, il suivait mieux avec le chapitre d'avant en fait. Parce que dans le chapitre d'avant, on nous explique comment Saül il a été nommé roi. On dit voilà, Samuel il a convoqué tout le monde à Gilgal il me semble, et il a nommé Saül roi, il a dit les devoirs du roi, les devoirs du peuple. Et donc, ça aurait bien terminé avec celui-là. Donc, voilà. Moi, je l'éjecte dans le chapitre d'avant et j'en parle pas aujourd'hui. Dans le chapitre qu'on va voir, donc la suite du chapitre 13, c'est plus la même chose en fait, c'est plus la même histoire. Il est roi et il doit affronter les Philistins. Donc, c'est les grands ennemis de l'époque, hein, à l'époque des juges. Voilà. Je reviens quand même rapidement sur ce verset-là. J'ai mis la traduction Osterwald ici. Saül avait régné 1 an, et quand il eut régné 2 ans sur Israël, il prit avec lui 3000 hommes, et voilà. Bon. Donc Martin et Osterwald, c'est des traductions un peu plus anciennes, ils le traduisent comme ça. C'est peut-être pour ça que ça a été collé avec le chapitre 13, en fait, à ce moment-là. Hein. Mais voilà, c'est pas clair. Ce qui m'intéresse, c'est que après ça, on va voir la guerre de Saül contre les Philistins, et Saül, il va pas être tout seul, en fait. Il va être accompagné de son fils Jonathan. Et alors du coup, c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment, on a une vague idée de quand est-ce que c'est. Ça paraît un peu court de dire que Saül il avait 30 ans. Parce que si son fils il vient avec lui à la guerre, on voit mal un fils de, je sais pas, 10, 15 ans aller mener des guerriers au combat avec une troupe, tout ça, ça paraît compliqué. Donc on se dit qu'il a peut-être un peu plus, 15, 20 ans, une petite vingtaine d'années peut-être. Et donc, ça voudrait dire que Saül, il serait déjà un peu plus âgé, il serait plus proche peut-être de la quarantaine. Voilà, c'est que des suppositions, ça ne change pas grand-chose à l'histoire, en fait. Hein. Mais voilà, il n'y a pas d'élément de datation là-dedans. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plus la suite. Alors, ça ne va pas se prêter beaucoup aux diapos. Hein. J'ai craqué, j'en ai fait quand même. Mais c'est pas mal de listes de versets, et donc du coup, enfin, des passages assez longs. Et donc, ça, c'est pas toujours très, très visuel pour vous, mais voilà, ça fait au moins un support. Sinon, vous écoutez, vous avez votre Bible aussi. Il y a toutes les possibilités. Donc, 1 Samuel 13, alors, je vais peut-être le prendre moi aussi, ce sera plus simple. Donc, le premier verset, on l'a lu. Et à partir du verset 2, Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui, à Michmash, et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül, à Gilgal. On va déjà s'arrêter là, on verra la suite après. Alors le Micmac, aucun rapport avec notre Micmac à nous. Hein. Désolé, moi j'ai cherché, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc intéressant, mais le Micmac tel qu'on l'entend nous, ça vient d'autre chose, et donc voilà. C'est pas lié à ça, même si après il va y régner la confusion, en tout cas pas loin, il va régner la confusion, donc on peut pas s'empêcher de voir le lien quand même, même si étymologiquement notre mot il vient pas de là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Saül, il prend 3 000 hommes avec lui et il va faire la guerre aux Philistins, en fait. Les autres sont renvoyés chez eux. Alors, j'ai trouvé ça déjà un peu bizarre. On dirait, il fait la guerre aux Philistins, il prend un certain nombre d'hommes et puis il renvoie tout le monde chez lui. Bon, voilà, c'est assez étrange. Mais voilà, c'est comme ça. Jonathan, donc Saül, il est, on nous dit, à Michmash et à Bethel. Il a 2 000 hommes avec lui. Et Jonathan, lui, il prend une autre partie de la troupe avec lui. Il embarque 1 000 hommes avec lui. Et on nous dit après qu'il va aller attaquer un poste des Philistins qui est à Geba. Alors c'est pareil sur Gibéa, Geba, c'est pas très clair. Il y a deux villes assez proches, en fait, hein, sur la carte, qui sont bien différentes. Mais dans le texte, en fonction des manuscrits, des fois, ça, les deux sont écrits Gibéa. Les deux sont écrits Geba, enfin c'est pas très clair, en fait. Donc voilà, en tout cas, Jonathan, il n'est pas avec son père, il est près d'une de ces deux villes-là. Donc Jonathan, il remporte une victoire, et ça se sait chez l'ennemi. Donc l'ennemi n'est pas content, et c'est ce qu'on nous dit ici au verset 4, hein. Israël se rend odieux aux yeux des Philistins. Voilà, ils ont gagné, ils en ont honte, en fait, et ils ont peur. Ça donne un peu la situation. Donc j'ai voulu m'intéresser dans ce passage-là. Je suis désolé si c'est brouillon, hein, mais c'est venu en toute dernière minute. Donc j'ai voulu m'intéresser à Saül et à Jonathan, en fait, dans ce passage-là. Et au plus j'ai regardé, au plus je me suis dit, mais il y a un de ces contrastes entre les deux qui est saisissant, en fait. Et je voulais nous encourager ce matin, voilà, à regarder comment est Jonathan, prendre exemple sur lui, voir le mauvais exemple de Saül et se dire, oh là là, faut pas que je tombe là-dedans. Donc Jonathan, c'est qui? On ne sait pas grand-chose de lui non plus, en fait. Il n'y a pas beaucoup de passages sur lui, hein, quand on prend son histoire. Il y a ce passage ici, il y a les chapitres suivants. Il y a quelques passages liés à David, parce qu'il a eu une très forte amitié avec David. Et après, on parle de lui, finalement, à la mort de Saül, parce qu'il meurt avec, dans une bataille contre les Philistins. Et David pleure sur son ami, pleure sur Saül. Et voilà, on n'en parle plus jamais. Donc pas grand-chose sur Jonathan. On sait juste son origine. Tiens, je vais faire une carte. Voilà. Alors ça, c'était pour les villes. C'est vrai, ça me revient en tête. Donc ça, c'est le. Donc vous voyez la mer Morte, hein, la Méditerranée. Jérusalem qui est là-bas. Alors sur la carte ici, c'est encore écrit Jébus, mais voilà, c'est la ville qui a été rebâtie par David et qu'il a appelée Jérusalem. On voit Gibéa qui est juste au-dessus. Comme je trompe comme un malheureuse, vous voyez 10 villes en même temps. Geba, qui est juste à côté. Donc il y a vraiment un petit écart de quelques kilomètres, en fait, hein. Michmash, qui est au-dessus, et Bethel, qui est encore un cran au-dessus. On va parler de Silo dans l'histoire, donc c'est encore un cran au nord, mais tout ça se joue sur une distance de 20 kilomètres, peut-être, en fait, hein. C'est tout petit. Et ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que les Philistins, ils sont dans ces villes-là, initialement, Asdod, Écron, Ashkelon, Gath, et je ne sais plus la cinquième. Je crois que c'est Azeka, mais on ne la prononce pas comme ça dans la version seconde. En tout cas, voilà, c'est les 5 villes des Philistins. Donc les Philistins se sont installés, en fait, ils ont commencé à prendre du terrain sur Israël et à se rapprocher des villes d'Israël. On parlera tout à l'heure aussi de Gabaon, qui est en plein milieu, en fait, et Kiriath Yearim aussi. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment regroupé ici, juste au nord de Jérusalem, et c'est dans un mouchoir de poche, en fait, hein, toutes ces villes-là. Alors, c'est une deuxième manière de voir les choses. On a Jérusalem qui est partie là-bas, voilà, Bethléem en dessous, puis on retrouve Michmash, Geba, Giba, Gibéa. Voilà, c'est vraiment très très proche, hein, l'échelle, elle est là-bas. Cette échelle ici, c'est 10 kilomètres. Donc vous voyez, c'est tout ça se tient dans vraiment quelques kilomètres. Donc ils étaient vraiment les uns près des autres, en train de se batailler à bout portant. Donc on ne sait pas grand-chose de Jonathan, si ce n'est qu'il est probablement le fils aîné de Saül. Pourquoi? Parce qu'en 1 Samuel 14, verset 49, ça nous dit: les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi, Malchishua. Ses deux filles s'appelaient, l'aînée Merab et la plus jeune Michal. Voilà. Après, on apprendra que Merab, elle aura des enfants, et on parle de ses enfants plus tard. Et Michal a été mariée d'abord à David, puis a été donnée à quelqu'un d'autre. Et Jishvi et Malchishua, on n'en parle pas beaucoup non plus. Mais voilà, comme il est en premier dans la liste et que c'était plutôt l'habitude de les donner par ordre de naissance, on se dit Jonathan, c'était le fils aîné de Saül. Et on n'en sait pas plus. Voilà, donc je vous ai dit, l'idée c'était de regarder le contraste entre Saül et Jonathan. Alors, on va déjà regarder Saül. C'est le mauvais exemple. Hein. Je ne veux pas dire écoutez pas, sinon voilà, ça ne va pas faire contraste avec Jonathan après. Mais c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Il faut insister. Hein. Donc, la première chose qui me marque dans ce passage, c'est le contraste entre Jonathan et Saül. Alors, j'espère ne pas trop extrapoler. D'accord? Surtout quand c'est les noms de villes et tout ça. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à ça. J'espère que je ne vais pas trop loin dans mon interprétation. Mais je vois un Saül qui est à Bethel. D'accord? Il est à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Et du coup, je me dis, Saül, en fait, il pensait peut-être qu'il se mettait là. Il était à la maison de Dieu et donc il était protégé. Il y avait Dieu avec lui. Sauf que Bethel, à son époque, c'était un lieu d'idolâtrie, en fait. C'était devenu un lieu d'idolâtrie. Bethel, c'était proche de Silo. Silo, c'était où il y avait les sacrificateurs. Il y avait Élie. Il y avait l'Arche de l'Alliance, qui était gardée par les fils d'Élie, par Élie et ses fils, en tout cas. Et Saül, quelque part, on voit que sur cette carte, il est au nord et il se rapproche de ces deux villes-là. Il se rapproche de la maison de Dieu. Il se rapproche de là où il y a l'Arche, où il y avait les sacrificateurs et. Voilà, moi je l'ai interprété comme il y a un côté religieux en fait. Il pense que ça va le protéger. On verra plus tard en fait que l'arche n'y est plus malheureusement à Silo à cette époque-là. C'était l'endroit où il y avait l'arche. J'aurais dû le formuler comme ça. C'était la maison de Dieu, mais voilà, c'était l'étiquette qu'on avait mise il y a quelques centaines d'années avant. Mais ça ne l'était plus en fait. Il n'y avait plus rien à Bethel, il n'y avait plus de foi à Bethel, il n'y avait plus de foi à Silo. Et pourquoi il n'y avait plus rien à Silo? Bah parce que les Philistins, ils avaient attaqué et qu'ils avaient détruit et qu'ils avaient emmené l'arche. Donc ça, c'est une autre histoire hein, qu'on lit. C'est à Aphek. Alors sur la carte qu'on voyait tout à l'heure, c'était vraiment sur la côte et complètement au nord. Mais les Philistins ont écrasé Israël et ils ont pris comme butin l'arche et visiblement le tabernacle. Enfin, c'est pas très clair en fait sur ce qu'ils récupèrent. Dans la Bible, on voit surtout la question de l'arche en fait et le tabernacle, on le perd de vue. À cette bataille, les Philistins, ils ont tué les deux fils d'Élie. Donc Élie, enfin les deux fils d'Élie sont morts. L'arche est embarquée dans les villes des Philistins. Et Élie, il entend ça. Il entend que ses deux fils sont morts. Il entend qu'on a pris l'arche de l'Éternel. Et il se renverse, il tombe à la renverse et il meurt aussi. Voilà, c'est pas un épisode très glorieux de la vie d'Israël, mais pour vous dire que toute cette période, on pourrait presque dire bénie à Silo. Et à Bethel, elle était terminée en fait. Dieu, il avait écarté les personnes, il avait même fait partir l'arche quelque part de la ville, et elle n'était plus là-bas. Alors où est-ce qu'elle était? Elle avait un peu vadrouillé chez les Philistins, et après, eh ben, le tabernacle, il serait revenu à Gabaon, et qui n'était pas une ville d'Israël en réalité. Alors ça fait bizarre, hein, mais voilà. Et enfin, ça faisait partie d'Israël, mais c'était des extérieurs qui ont été inclus dans Israël. Pas partir là-dessus, mais voilà, ça vous fait au moins juste le contexte de tout ça. Et donc j'ai dit le tabernacle, hein, c'est ça, à Gabaon. Et l'arche, du coup, elle était à Kiriath Yearim. C'est pour ça que je vous l'ai cité aussi. Mais donc plus à Silo, plus à Bethel. Tout ça a été pris chez les Philistins. Et quand on l'a rapatrié, on l'a mis dans ces deux villes-là. Alors, 1 Samuel 14, verset 3, il faut que je retrouve pourquoi je l'ai écrit. C'est Akija, fils d'Achitub, frère d'Ichabod, fils de Phinéas, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas. Voilà. Et en verset 18, Saül dit à Akija, fais approcher l'arche de Dieu. Car en ce temps-là, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Donc on voit que voilà, Saül, il s'est rapproché de ça, il s'est rapproché du sacrificateur à l'époque, et il y avait ce côté religieux. Bethel, c'était au sud de Silo. Alors j'ai un verset juste pour vous dire que je raconte pas n'importe quoi, mais c'est Juges 21, verset 19. Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem. Donc voilà, juste pour la géo, mais je suis très mauvais en géo, donc je suis très mauvais à vous l'expliquer probablement. Donc Saül avait visiblement besoin d'avoir un sacrificateur avec lui, d'avoir l'arche, d'être près des villes où c'est écrit maison de l'Éternel, et ça devait le rassurer, ça devait lui faire du bien. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Je pense qu'il était religieux, et pourquoi je dis ça aussi, c'est parce qu'après on le voit en fait. Après, dans la suite du chapitre 13, Samuel lui dit, écoute, tu m'attends 7 jours à tel endroit, et je vais offrir le sacrifice. Et en fait, Saül, il va pas attendre. Enfin, il va attendre, et voyant que Samuel n'arrive pas, il se dit mince, tout le monde part, et puis voilà, il offre lui-même le sacrifice. Et quand Samuel va le voir, voilà. Quand Samuel va le voir, ça donne ça. Donc le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé? Non, c'est pas ça. Non. Alors c'est un verset après. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il ressemble au peuple d'Israël, en fait. Il y avait déjà en Israël cette idée que si j'ai la maison de Dieu avec moi, si j'ai des choses de Dieu avec moi, je vais remporter la bataille, en fait. C'était une forme de superstition. Et je reviens du coup sur ce verset-là en 1 Samuel 4, donc c'est bien avant, hein, mais ça donne la même idée, en fait, de superstition. C'est pour ça que je l'ai repris. 1 Samuel 4, versets 3 à 7. Donc ça, c'est cette fameuse bataille où les deux fils d'Élie sont tués, où on va embarquer l'arche après. On est là juste un tout petit peu avant. Donc 1 Samuel 4, et à partir du verset 3, le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoyait des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Donc vous voyez le comportement du peuple d'Israël. On va chercher l'arche de l'alliance, elle sera au milieu de nous et on va gagner. Et au verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. J'aime bien la formulation, hein. Ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Mais Israël aussi, il l'a cru, en fait. Il s'est dit: on a l'arche avec nous, on va être délivré de nos ennemis. Et en fait, ils associaient l'arche à la présence nécessaire de Dieu. Sauf qu'à ce moment-là, Dieu, il a dit, il a laissé partir son arche. En fait, il s'est dissocié de ça et son arche était là, mais pas lui. Il a décidé de ne pas donner la victoire à Israël. On ne peut pas dire qu'il n'était pas là, on ne peut pas dire qu'il... Voilà, il est partout, donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas là. Mais il a abandonné Israël et ce n'est pas parce qu'ils avaient avec eux l'arche qu'ils avaient le bénéfice de la présence de Dieu, qu'ils avaient la victoire. Donc c'était déjà ce côté religieux, en fait, hein. D'Israël et puis des autres peuples autour, en fait. Finalement, ils ressemblent aux autres. Dans tous les peuples, on a des gris-gris, des bricoles, des choses. Voilà. Même, ça pourrait être notre Bible, hein. On pourrait dire: bah, moi, j'ai ma Bible avec moi, voilà, j'ai la parole avec et je suis protégé. Et on peut faire cette association-là. Donc, je pense que Saül, il avait de cet esprit-là, en fait. Il se disait: moi, je suis près des sacrificateurs, je suis près de l'arche, et donc, je suis près de la maison de Dieu, ben, je vais avoir la victoire grâce à ça. Quelque part, il s'attachait à des choses du passé. Je vous ai dit, Silo, c'était terminé. Béthel, c'était terminé. L'arche, elle y était plus. La maison de Dieu, c'était plus la maison de Dieu, en fait. Et lui, il continuait à s'attacher à ça. Donc je pense aussi, il y a une forme de, voilà, de religion, de superstition de Saül, qui se dit qu'il y a un bénéfice à tout ça, et qui confond ça avec la réelle présence de Dieu, en fait. Donc on revient maintenant dans le bon ordre, à ce qui se passe plus tard. Et donc, à ce fameux épisode où Samuel lui dit: attends-moi pour offrir le sacrifice. Et en fait, Saül l'attend, mais pas assez. Et comme Samuel n'arrive pas dans les temps, et ben Saül, il offre lui-même le sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est de voir les propos de Saül, en fait. Alors, j'écris versets 8 à 12, mais pas le chapitre. Si, c'est le 13. Donc, Saül attendit 7 jours. C'est ça, 1 Samuel 13, verset 8. Ouais. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et les peuples se dispersaient loin de Saül. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Je sais pas où ça coupe. Ouais. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et on voit ce côté, voilà, religieux. Je ne peux pas y aller, j'ai pas fait mon sacrifice. Il aurait pu y aller sans sacrifice. S'il avait la présence de Dieu avec lui, au lieu de l'avoir quelque part ailleurs dans l'arche. Mais il était accroché à cette symbolique-là. Donc vous voyez, c'est un ensemble de petits éléments que je prends, et bout à bout, on voit que Saül, il était religieux, qu'il avait peur, qu'il avait une forme de, voilà, de superstition. Donc c'est un triste roi, à ce moment-là, Saül. Et je pense que la peur qu'il a, elle est liée à sa religion, en fait. Moi, je fais le lien avec ça, et comme il ne respecte pas les règles de sa religion, de sa superstition, eh ben il encourt des non-bénédictions, il encourt des malédictions. Donc il est obligé de respecter ces règles-là. Vous voyez, ça fait peur, parce que si je fais pas ci, si je lis pas ma Bible tous les jours, je vais avoir une malédiction sur moi. Si je ne lis pas tous les jours, matin et soir, c'est moins bien. Je vais être moins béni que si je la lis. Voilà. Et on peut avoir des raisonnements comme ça. Je dis pas que c'est pas vrai, hein. C'est au plus on la lit, au plus on est béni. Donc si vous la lisez matin et soir tous les jours, c'est bien. Mais si on le fait pour être béni et qu'on rentre dans ce système-là de dire ben c'est parce que je le lis que je vais être béni, il y a quelque chose qui va pas. On rentre dans une superstition, on rentre dans une religion en fait. Donc ce roi il a peur, et puis ce qu'on voit dans les versets, hein, c'est que Israël se rend odieux aux Philistins, et puis ils ont tous peur en fait, ils se sauvent tous. On reviendra après sur la suite. Donc ça, c'est l'état de Saül, pas très glorieux. Maintenant, on en arrive à Jonathan, qui lui est le bon exemple là-dedans. Donc, où est-ce qu'il est, Jonathan? Alors, si vous dites, c'est pas clair entre Giba, Gibea, mais les deux villes sont vraiment côte à côte, et donc c'est pas, ça ne change pas grand-chose, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Saül, il s'est éloigné des Philistins. Lui, il s'en rapproche. Il va au contact, quasiment. On dit, les Philistins, ils étaient à Gibea, lui, et à Giba, ils se voient, je pense. Hein. Ils sont vraiment côte à côte. Donc lui, il n'a pas peur. Et c'est ça qui me marque dans cette histoire, c'est que on ne voit pas de questions, on ne voit rien. Alors la Bible, elle est des fois assez, assez courte dans ce qu'elle nous dit. Mais là, on nous dit juste... donc Saül, il renvoie le peuple, il y a 1000 hommes avec Jonathan, et le verset 3, c'est « Jonathan bâtit le poste des Philistins qui est à Geba ». Voilà, on n'en sait rien, on ne sait pas, mais visiblement, il ne s'est pas posé de questions, il a été et il a remporté une victoire. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Saül, il s'accroche au passé, là où il n'y a plus l'arche. Jonathan, il descend et en fait, il se rapproche de Gabaon et de Kiriath Yearim. Donc lui, il se rapproche de là où il y a réellement la présence de Dieu, finalement. Alors, voilà, c'est peut-être qu'un... J'extrapole peut-être de trop, mais je trouvais ça intéressant de voir que lui, il va au contact de l'ennemi, dans la direction. Il va là où il y a la présence de Dieu aussi, en réalité. Et en tout cas, il va dans cette direction-là. Et Saül, c'est tout l'inverse. Alors pourquoi je vous dis Gabaon et tout ça, c'est à cause de ce verset-là qu'on retrouve dans deux chroniques. Quand on cherche les mentions de l'arche, c'est pareil, il y a un grand trou. Hein. Entre ce moment où on voit les Philistins qui l'embarquent, qui la redonnent à Kiriath Yearim, et puis après, tchou, ça disparaît. Et on retrouve les choses dans deux chroniques, donc vraiment plus tard au moment des rois, au moment de Salomon. Deux chroniques, chapitre 1, versets 3 et 4. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiriath Yearim à la place qu'il lui avait préparée, qu'il avait dressée pour eux une tente à Jérusalem. Donc là, ça nous dit David, il l'a déplacée de Kiriath Yearim à Jérusalem, dans le temple qu'il lui avait fait. Mais donc à l'époque de Saül, c'est à Kiriath Yearim. Étonnamment aussi, Gibea, c'est la ville de naissance de Saül. Je trouve ça intéressant aussi. Jonathan, il protège cette ville, ça a une importance à ses yeux. Et Saül, lui, bah, beaucoup moins, visiblement. On pourrait dire, on est presque dans des films, hein, mais c'est ma ville de naissance, je vais y aller, et puis voilà, courageux et tout. Et puis, bah non, il s'en écarte, et puis pff, Saül, il n'y va pas. Donc voilà, lui, il y a quelque chose de particulier. Et c'est une différence entre les deux. Maintenant, c'est peut-être que de la bricole, hein, je me fais peut-être des idées. Jonathan, il n'a pas de sacrificateur avec lui. Il y va. Et vous notez qu'il a moins d'hommes armés que son père aussi. Son père, il a 2000 personnes avec lui. Lui, il y va avec 1000 personnes. Pff, pas de souci. En fait, Jonathan, quand on regarde, alors je vous dis, on n'a pas beaucoup sur lui, mais on se rend compte qu'il avait la même foi, le même courage que David. Et c'est marquant Moi, voilà, j'ai repensé nécessairement hein, à David qui s'approche de Goliath. Et donc, c'est ce qu'on voit en 1 Samuel 17, c'est pas très longtemps après, en fait, hein. S'arrête aux bêtes des champs. Okay. Le Philistin, 1 Samuel 17, versets 41 à 47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça donne le contexte des Philistins aussi, hein, c'était très, très sympathique. Et la suite, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. C'est tout aussi joyeux, hein, mais... Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Il y a cette foi dans David, et ce jeune garçon qui arrive, il va face à un géant, et il cherche pas, quoi. Et Saül a essayé de dire, mais attends, prends mon armure, prends mes armes, tout ça, et puis impossible de bouger. David, il y va avec quoi? Avec rien. Jonathan, il y va avec quoi? Avec rien. Parce que dans la suite du texte, on voit qu'ils n'avaient plus d'armes en Israël. Les Philistins, ils avaient tout confisqué. Et quand on voulait ne serait-ce que aiguiser ces outils, les affaires des champs et tout ça, il fallait les demander aux Philistins, il fallait leur payer. Donc il n'y a plus une arme en Israël, en fait. Il n'y a plus que Saül et Jonathan qui ont une arme. Ça fait pas beaucoup, hein. Et Jonathan, il y va et il bat le poste des Philistins. Je trouve que c'est vraiment deux fois complètement identiques, en fait, entre David et Jonathan. Et Saül, il a tenté de donner ses armes à David, et David ne sait pas les utiliser. Il y va avec pas grand-chose. Il est méprisable aux yeux des Philistins. Vous voyez, cette phrase du Philistin, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Alors blond ou roux, ça dépend des traductions aussi, hein, et d'une belle figure. Et pourquoi David il y va? Parce qu'il y va au nom de Dieu. Et Jonathan, c'est exactement la même chose. Et au nom de Dieu, quand on dit le nom d'une personne, en fait, ça symbolise la personne. Il y va avec cette personne-là, en fait. Et David, il l'a bien compris. Il dit, c'est pas mon épée, c'est pas la lance, c'est pas au travers de ça que Dieu il va sauver. David, il y va d'ailleurs sans épée, sans lance. Il y va avec sa fronde et ses cinq cailloux, ses cinq pierres polies. Il dit la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est pas moi qui fais quoi que ce soit, c'est Dieu qui donne la victoire. Et Jonathan, il y va de la même manière. On va voir une deuxième histoire après ça où il y va exactement de la même manière. En fait, un peu plus tard, en 1 Samuel 14, alors raté, j'ai pas pris tout le verset. Si, c'est ça. Donc, on sait. Voilà. Ici, dans cette première histoire, on voit juste Jonathan, il attaque le poste des Philistins, il gagne. Voilà. Juste après, on retrouve Jonathan, qui va encore attaquer le poste des Philistins. Voilà. Il s'arrête pas, hein. Il est motivé. Et à ce moment-là, donc c'est 1 Samuel 14, verset 12, les hommes du poste s'adressèrent. Donc, il faut que je réexplique le contexte du coup, mais Jonathan, il est avec son porteur d'armes et il dit, regarde. On est en train de grimper, il y a deux pics rocheux, on passe au milieu, il y a les Philistins qui sont là-bas. On va faire quelque chose. S'ils nous disent d'approcher, on y va, l'Éternel les livre entre nos mains. S'ils nous disent attendez là, alors c'est qu'il ne faut pas y aller. D'accord? Et du coup, les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan, à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, nous vous ferons savoir quelque chose. Ah, piège! Jonathan dit à celui qui porte ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Clac, c'est le déclic, il dit, voilà, on avait mis les deux choses sur la table, et on voit bien que la réponse du Seigneur, c'est ça. C'est l'Éternel qui les livre entre nos mains. C'est exactement la même chose que David quand il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Il y a la même foi dans les deux, en fait. Et je trouve ça incroyable de voir les deux, et ça explique, je pense aussi, pourquoi ils ont une amitié tellement forte, parce qu'ils avaient cette foi identique dans leur cœur. Ils aimaient le Seigneur et ils avaient confiance en lui. Donc ils y vont, donc pas dans le premier là qu'on a lu, mais dans le deuxième, et ils battent à eux deux une vingtaine de Philistins sur un terrain qui est tout petit, dont on n'a pas vraiment les dimensions, c'est pas très clair non plus. Beaucoup de choses pas très claires, mais c'est parce que c'est des détails auxquels il faut pas qu'on s'attache. Ce qui est intéressant pour moi, et c'est bien qu'il soit là dans le CUD, c'est que quand on considère David à ce moment-là, quand on considère Jonathan, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Et donc c'est un encouragement aussi pour les jeunes. Quand on voit le Saül qui est en pleine force de l'âge, hein, il a la quarantaine, il se cache. Oh non, c'est pas un vieux à 40 ans, mais voilà, il est dans la force de l'âge, mais il se comporte comme une personne âgée qui ne peut plus rien faire. Et en fait, il n'y a pas. C'est l'âge où il doit y aller, en fait. Bon, ce message, je ne le dis pas que pour vous, hein, vous en avez conscience. C'est adulte. Saül, il est adulte, il est roi. Il doit montrer l'exemple aussi. Et quel exemple il montre? Il a peur. Et donc, bah, tout le monde a peur autour de lui. Donc, ces deux jeunes garçons, ils nous montrent un exemple de foi. Et c'est un exemple pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut le chercher. Et il veut donner des grandes victoires. Il a utilisé des jeunes pour donner des énormes victoires au peuple d'Israël. Il y a cette phrase dans 1 Timothée 4 que je prenais pour moi, je vais continuer à le prendre pour moi pour l'instant. Mais... Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité ou en amour, en foi, en pureté. Un modèle de foi. C'est un encouragement pour les jeunes à être un modèle de foi. Et que le Seigneur, il peut vous utiliser, je vais formuler vous, pour donner des grandes victoires à son peuple. Mais ce n'est pas réservé qu'aux jeunes, hein. Mais il y a un encouragement spécial pour les jeunes. L'ennemi, il a méprisé David. C'est pour ça que je pensais à ce verset-là, en fait, hein. Et l'encouragement, du coup, pour les moins jeunes, c'est de ne pas mépriser les jeunes, en fait. C'est de les encourager et de savoir que Dieu, il peut les utiliser pour avoir des grandes victoires aussi. Les Philistins, ils ont méprisé Jonathan et son porteur d'armes de la même manière. Venez voir, c'est que deux jeunes, on va s'en débarrasser rapidement. Mais ils ont infligé une grande défaite aux Philistins. Ils ont procuré une grande victoire au peuple. Il faut simplement se souvenir, du coup, les jeunes, et les autres aussi, des paroles de David et de Jonathan. C'est l'Éternel qui livre l'ennemi entre nos mains. C'est lui qui donne la victoire. On n'y va pas parce qu'on est plus musclé que les autres, parce qu'on est plus d'énergie, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a compris plus de choses, parce que tout ce qu'on peut trouver, parce qu'on est plus diplômé, parce que voilà, on peut en trouver plein, hein, comme ça. Mais on y va parce qu'on a son esprit et sa présence avec nous. Et que c'est ça qui donne la victoire, en fait. Ça fait nécessairement penser aussi à Zacharie 4, verset 6, hein, la deuxième partie. Ce n'est ni par la force, non, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc c'est important de retenir ça. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien dire nous, hein, c'est une blague que j'entends souvent au boulot. J'ai un directeur qui a pas loin de la soixantaine, si je me trompe pas, et il aime bien commencer des choses, dire bon, nous les jeunes, on fait ceci, on fait cela, voilà. On sourit tous, hein. Lui, il y a un bon gros rire gras qui montre qu'il a bien compris, qu'il a bien fait exprès. Mais en fait, j'ai l'âge de Saül probablement, pas loin. Ça veut dire que c'est le danger qui nous guette, en fait, hein. On peut être enflammé pour le Seigneur au début, et puis on peut avoir tendance à se rasseoir, à s'endormir, et je pense qu'il y a un avertissement pour nous. Donc je vous ai dit à pas mépriser les jeunes, et puis à pas tomber dans ce travers-là, en fait. On peut continuer à être jeune, en fait. On peut continuer par l'esprit à agir, à remporter des victoires. C'est pas limité aux jeunes, en fait. C'est un encouragement particulier pour eux, mais c'est un encouragement pour tout le monde, en fait. À ne pas tomber dans la quarantaine spirituelle, on va dire ça comme ça. Donc Jonathan, finalement, on a ce contraste entre son... Il faut que j'enlève le Jonathan du début de la phrase, ce sera plus clair. On a ce contraste entre Saül, voilà, qui est religieux, qui a oublié d'où il vient, en fait, hein, qui est superstitieux, et Jonathan qui a une foi vivante, comme celle de David, et qui attaque, qui y va pour le Seigneur, en fait. Alors la question, c'est et nous? À qui on ressemble, en fait? Est-ce qu'on est comme Saül et qu'on pense être protégé parce qu'on vient dans un bâtiment sur lequel est écrit Église évangélique, Maison de l'Éternel? On n'a pas écrit Maison de l'Éternel, hein, tel quel, mais bon, on en comprend ça, on vient à la maison de Dieu quand on vient au culte. C'est ce qu'on se dit. C'est un abus de langage, c'est pas bon. Est-ce qu'on a besoin de la présence d'un sacrificateur? Ben non, on n'en a plus. D'un prêtre? Maintenant, on n'est pas dans l'Église catholique. Bon, ben, un ancien pasteur. Et si on les a, on est béni? Ça ne devrait pas être limité à ça, hein. J'espère qu'on est une bénédiction pour vous. Mais voilà, il ne doit pas y avoir de cette superstition de là, je suis pas loin de lui. Tout à l'heure, on disait les gens qui voudraient être loin de moi. Mais voilà, je suis pas loin de lui, je vais être béni. Voilà, mais ça se fait pas comme ça en fait. C'est pas ça la question. Quand vient le danger, comment on réagit? Saül, il a tremblé, il a eu peur, il s'est éloigné et puis il a attendu, il a compté sur un geste venant d'on ne sait pas trop où pour faire quelque chose, on ne sait pas trop quoi en fait. Enfin voilà, il attendait. On le voit à plusieurs moments, il attend et il fait rien. Pour un roi, c'est triste. Alors, je pense qu'on ne peut pas éviter par moment la peur. La peur, elle est salutaire. J'ai déjà prêché là-dessus. Il y a des peurs qui nous font faire, qui nous approchent de Dieu, en fait, qui nous poussent dans les bras de Dieu, et c'est bon. Mais on ne doit pas être dirigé par la peur. On ne doit pas être constamment dans la peur. On ne doit pas la subir, en fait. Ça peut être un moment parce que c'est nos réactions humaines. Voilà, c'est comme ça. La peur, ça nous permet aussi de retirer notre main du feu. Enfin, il y a la douleur aussi. Mais voilà, il y a des choses qui font peur. Et c'est fait exprès pour nous éloigner du danger. Mais il y a des moments où spirituellement, il faut y aller en fait. Et c'était ça l'exemple de Jonathan. Saül, il voit le danger, il se recule. Jonathan, il voit le danger, il y va. Et c'est ce contraste entre les deux qui est impressionnant. Mais nous, on ressemble à quoi alors? Est-ce qu'on se cache discrètement dans notre coin en se disant, oh là là, si je vais embêter l'ennemi, il va pas être content et je vais me rendre odieux à ses yeux? Alors on va pas le toucher et puis bon, on va vivre comme ça, chacun l'un en face de l'autre, et puis on va essayer de gérer ça comme ça. Ah, Jonathan, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Alors vous allez me dire, moi je suis pas religieux comme Saül. Ouais, mais c'est aussi ce que je disais. Mais je crois que c'est pas un. Quand on se dit ça, c'est parce qu'on s'imagine qu'il y a le 100% religieux et le 0% religieux. Et qu'il n'y a que ça en fait de vrai. Mais en fait, c'est un curseur. C'est un curseur et je. Voilà, je me considère pas comme religieux à 100%, mais je reconnais d'un fois dans mes réactions qu'il y a un côté religieux encore à certaines choses. Il y a un côté, vous savez, des règles de fonctionnement, des habitudes. Donc je me sens pas religieux, mais il y a encore des portions en moi qui vont pas et que le Seigneur doit changer. Et voilà, à chacun à voir où est le curseur en fait. Et il y a des gens qui sont à 90% religieux, il reste un bout de foi, quelque chose. Voilà, le Seigneur, il veut tirer le curseur jusqu'au bout. Il veut tirer le curseur jusqu'à 100% de foi et qu'il n'y ait plus de religieux. Mais il y a du boulot dans nos vies, hein. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est l'impact sur les autres. On l'a déjà abordé plus ou moins, hein. Saül. Alors, encore un gros pavé. 1 Samuel, chapitre 13, versets 4 à 7. Donc c'est la suite de ce qu'on a lu. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins. Et on l'a lu. Et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1 000 chars et 6 000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Il est triste, hein, l'état d'Israël. Ils se cachent dans des buissons, dans des citernes. Alors, je sais plus jusqu'où j'ai cité, du coup. Tremblé. Ok. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent, voilà. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il y a un roi qui tremble, ceux qui sont autour, ils tremblent aussi en fait. C'est contagieux. C'est contagieux. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette description-là, hein. C'est triste de voir le roi qui motive pas ses troupes en fait. Et comme il est découragé, il décourage tout le monde autour de lui. Et le risque quand on est nous découragés, c'est qu'on décourage les gens autour de nous. Alors, j'ai ma propre situation en tête. On va faire un binôme, Laurence. On est à un moment un peu compliqué au boulot, en fait. Bon, c'est compliqué d'expliquer, je ne peux pas expliquer en détail, mais voilà, on a pareil, une surcharge de projets, de travail, des gens à l'échelon du dessus qui balancent, qui balancent, qui balancent, et il faut des délais, il faut des délais, et on court comme des dératés, on n'y arrive plus. J'ai un collègue qui est parti il y a un an et demi, qui a changé d'endroit, enfin, il est parti dans un autre service parce que, voilà, il ne supportait pas la manière dont ça se passait. J'en ai un autre qui part là, débauché par une société privée. J'en ai encore un autre qui part en retraite en juillet. Donc, sur une équipe de 8, ça fait, fouf, on se retrouve à 5. Et je perds plus de la moitié de mes développeurs. Donc, un peu compliqué. Et pour bien faire les choses, dans pas longtemps, on fait des travaux dans l'ensemble du bâtiment, les 6 étages, pour refaire 400 prises réseau et téléphoniques. Donc, ça va tirer des câbles dans tous les sens. Alors, c'est pas nous qui tirons les câbles, hein, je vous rassure. C'est une société, mais voilà, il faut les pister, il faut être derrière eux, il faut être là quand il y a un moindre souci. Donc, ça se rajoute au reste. Il y a un sentiment de, comme beaucoup d'endroits, je pense, hein, de manque de reconnaissance de la part des collègues. Pas envers moi, hein, mais envers la direction, envers les gens autour. Ils se disent, moi, je bosse pourquoi, en fait? Les gens me laissent me dépatouiller dans mon bazar et personne n'en a rien à faire. Finalement, si je fais rien, c'est pareil. Moi, après tout, je bosse pour eux à la base. Et c'est vrai que le métier d'informaticien, c'est ça. C'est on bosse pour les gens. On est là pour les dépanner, on est là pour leur faire leurs applications et essayer que ça se passe au mieux pour eux, que ça soit qu'ils soient le plus aidés possible dans leurs tâches. Et donc quand ça suit pas en face, on dit bah pff, ça sert à quoi de bosser pour eux? De toute façon, ils s'en fichent. C'est pas vraiment le cas. Hein. C'est juste une. Enfin, il y a un fond de ça, mais il y a une perception qui est mauvaise aussi. Hein. Je vais insister aussi. Donc j'arrête le tableau noir, hein, mais voilà, on peut lister beaucoup beaucoup de choses comme ça. Et du coup, bah, toute l'équipe est en train de sombrer, en fait. Toute l'équipe a démotivé. Et en fait, je m'en suis rendu compte, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Bah, j'ai l'impression que j'ai commencé à sombrer avec eux, en fait, à commencer à plonger et à perdre un peu la motivation, le courage. Et voilà. Alors, hier midi, avant-hier midi, du coup, hier midi, c'est quand j'écrivais ça. J'ai le collègue qui part, avec qui je mange, et qui me dit, tu sais, on s'est tous rendu compte que tu étais en train de plonger là, hein, et que tu perdais la motivation, et si toi tu lâches, ben on sait pas comment on va faire. Je te colle pas la pression. Non, mais c'est gentil dans un sens parce qu'il dit voilà, si faut que tu tiennes, faut que tu tiennes, quoi. Sinon, nous, on pourra pas. Donc c'est gentil, ça met une pression supplémentaire. Et j'essaye d'encourager les collègues, leur dire mais il y a un mauvais moment. On peut avoir espoir qu'on ait des recrutements, qu'on ait des gens qui arrivent, même si là aussi, hein, dans le secteur informatique, c'est super compliqué de. Voilà, nos concours de fonction publique, ils attirent pas parce que c'est payé deux fois moins que dans le privé, hein, pour des informaticiens. Parce que le concours est bête, et donc bah voilà, les gens ça les intéresse pas de passer un concours idiot. Enfin, il y a plein de critères, donc même le recrutement il n'est pas gagné derrière. Mais je leur dis, écoute, on peut avoir des gens, il y a des projets qui vont s'arrêter, on va prendre un mauvais moment, mais voilà, faut serrer les dents, et après ça va aller mieux. Mais voilà, ça reste un espoir humain en fait. Ça reste un peu une manière de motiver les troupes. Alors je leur ai dit, hein, moi je suis pas du genre le chef de guerre qui va, ouais, on y va, vous inquiétez pas, on aura la victoire, même si on se fait écrabouiller à la fin, on se fait laminer. Voilà, faut être réaliste aussi. Donc il y a des fois, faut dire juste, on n'y va pas, puis c'est tout, quand on peut. Mais je me suis rendu compte, tristement, de mon impact sur mes collègues, en fait. Mon découragement, il décourage encore plus mes collègues. Et je vous dis, c'est pas la question de faire semblant d'être joyeux et tout va bien, et voilà, comme ça, ils vont garder le sourire. Non, c'est d'avoir un vrai espoir dans le cœur, de s'appuyer réellement sur le Seigneur, et du coup, que ça se voit, et que ça encourage les autres. Donc ça m'a vraiment parlé, cette situation de Jonathan. Alors, toute proportion gardée, parce que Jonathan, c'est une vraie bataille, hein, avec des morts, tout ça. Donc faut regarder, mais c'est une image quand même des choses. C'est une image aussi spirituelle des choses. Jonathan, il va se battre contre l'ennemi. Je ne peux pas dire que j'ai un ennemi au boulot, d'accord? Si j'ai un ennemi, ce serait éventuellement le découragement. Il y a un grand ennemi qui a plein d'amis à lui, hein, la tristesse, le découragement, la dépression, et puis ben, il les envoie et on peut avoir ces gens-là pour ennemis, le découragement. On peut se battre contre le découragement et voilà, on le personnifie un peu, mais voilà, ça peut être mon ennemi. Mais en dehors de ça, j'en ai pas. Donc il y a une proportion à garder. Mais je vois Jonathan, c'est une question de vie ou de mort. Je sais pas si on se rend compte. Quand il y va, c'est pas il est en train de jouer au dé et puis mince, si c'est le mauvais résultat, c'est tout. Il joue pas une somme d'argent, il joue sa vie. Quand il y va, il peut juste y passer simplement parce que c'est une guerre. Donc il y a un courage chez Jonathan qui est incroyable. Et nous, on se décourage dans des situations beaucoup plus petites que ça. Donc c'était, c'est voilà, c'est pas une. Enfin, je ne l'ai pas pris pour moi comme une claque du Seigneur en disant, mais t'es vraiment mauvais par rapport à Jonathan. C'est plutôt de dire, regarde, Jonathan, tu peux aller faire bien mieux que ça. Ta foi, elle vaut mieux que ça, en fait. Parce que c'est la foi, c'est celle que Dieu y donne. Donc Jonathan, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de terminer quand même. Hein. 1 Samuel 14, c'est ça? Ouais. 1 Samuel 14. Donc un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Vous avez vu, il est obligé de faire ça en planque en plus. Donc je saute parce que ça parle de Saül qui était sous le grenadier, qui attendait avec les hommes. Et voilà, hein, on sent qu'ils étaient très très joyeux. Et on reprend 1 Samuel 14 à partir du verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et qu'est-ce qui lui répond l'autre? Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Il y a une traduction qui dit, me voici comme ton cœur. C'est beau. Ça donne ça, en fait. Quand on a la foi, le courage que le Seigneur y donne, ça a cet effet-là autour de nous, en fait. Saül, il démotive tout le monde, il communique sa peur, et Jonathan, quand il y va, les gens, ils sont derrière lui en disant « On vient avec toi !» Mais ils n'avaient rien, ils sont deux. « Mais on vient avec toi, c'est pas grave !» Ils n'avaient pas plus de moyens au moment où Jonathan il dit ça qu'avant. Mais c'est juste qu'il y a la foi de Jonathan qui est là, et qui fait que c'est communicatif. Même si l'autre, on ne sait pas si son porteur d'armes, il connaissait le Seigneur. Mais il suit parce qu'il y a la foi de Jonathan qui l'éclaire, qui l'encourage en fait. Donc c'est un encouragement pour nous à avoir cette foi de Jonathan et que, bah, que ça remonte le niveau de tout le monde en fait. Ça redonne de la motivation à tout le monde, ça encourage tout le monde. Donc son porteur d'armes, c'est pareil, hein. Il n'est pas en train de dire ouais, je vais venir voir avec toi, puis on décidera, on verra bien ce qu'on fait. Non, non, on y va. Fais ce que tu as sur le cœur, je viens avec toi. Il risque sa peau, encore une fois. Tous les guerriers ont fui quasiment à ce moment-là. Il y aurait 600 avec Saül. Tout à l'heure, ils étaient 2000. Hein. Il y en avait 1000 avec Jonathan, on ne sait pas combien il en reste autour, mais là, ils y vont à deux. Personne n'a d'armes, juste Saül et Jonathan. Et Jonathan, il prend le peu d'armes qu'il a, ce qui lui a été donné par le Seigneur, et il y va. Et ça fait forcément penser à Éphésiens 6. Parce que Jonathan, il n'y va pas avec ses propres armes, en fait. Il y va, sa principale arme, c'est sa foi, que le Seigneur, il va agir, que le Seigneur, il va délivrer. Et c'est le Seigneur qui veut nous donner ses armes, en fait. Dans Éphésiens 6, c'est ça, c'est le bouclier de la foi. Il y va, il sait qu'il ne sera pas touché, parce qu'il a la foi. La suite, 1 Samuel 14, verset 8. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Hein. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. On a oublié de dire, hein, vu que c'était un peu facile comme situation, ils étaient en train de grimper avec passer entre deux éperons rocheux et les autres étaient sur le terrain qui les attendaient. Voilà. Il n'y avait pas meilleure situation pour remporter une victoire. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Verset 11, ils se montrèrent tous deux. Alors je sais plus où c'est. Ouais, si je vous le montre pas, ça va pas aller. Hein. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins. C'est sans doute là-dedans. Bon, sinon, vous m'écoutez, je me suis un peu perdu dans les diapos. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. On en comprend que c'est pas grand-chose, mais voilà. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple, et le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. C'est marrant, moi j'avais une traduction un peu différente. Alors je ne sais plus où, mais il y a un endroit où c'est écrit. Alors c'est peut-être une des traductions différentes, parce que j'utilise pas la même traduction toujours, et qui disait que Dieu, il a même envoyé un tremblement de terre, en fait, dans l'une des versions. Et le sol a tremblé, et ça venait de Dieu. Et c'est pour ça aussi que ça dit que c'était comme une terreur de Dieu, en fait. Donc vous voyez, ils font tomber 20 personnes, ça déclenche la confusion dans le camp ennemi, il y a Dieu qui en remet une louche par-dessus, parce qu'il était réellement avec eux, et ça fait une confusion dans tout le camp des Philistins. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de raccourcir la fin. On l'a peut-être là. Oui, Saül et tout le peuple. Alors on est au verset 20. Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés. Et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Deux personnes, deux jeunes, qui se pointent avec pas grand-chose dans des situations où on peut difficilement faire plus compliqué, ils tuent 20 personnes en face, ça met la confusion dans le camp, et ça remotive l'ensemble d'Israël, et ils remportent la victoire sur les Philistins. Ça part pas grand-chose, hein. Mais c'est l'encouragement que je veux laisser ce matin, d'avoir cette foi de Jonathan, la même que David, la même que d'autres, hein. J'étais un peu déçu, je ne l'ai pas retrouvé, Jonathan, dans les témoins de la foi, en Hébreux 11, mais voilà, tout le monde n'est pas cité, il n'y avait pas la place pour tout le monde, mais il aurait eu sa place aussi, en fait, hein. Et donc, je veux nous encourager, je veux laisser ça comme un encouragement. Vraiment pas pour ceux qui ont 40 ans et plus, dont je fais partie, vous l'avez compris. C'est pas, hein, bah, faut laisser les jeunes faire le travail. Hein. Il faut leur ressembler, des fois. Il faut ressembler à ces deux jeunes-là qui avaient la foi et qui ont remporté une victoire pour le Seigneur. Donc, je veux nous encourager à pas s'endormir et puis à laisser filer les choses, et dire les suivants, ils feront. Non, on a encore tous un rôle à jouer et le Seigneur, il veut se servir de nous. Ça peut partir de pas grand-chose, mais ça peut donner une grande victoire à la fin. Alors, je fais toujours attention, en fait, au message d'encouragement. Ma ILC, j'aime pas beaucoup en donner. Vous allez me dire, bah, t'es un drôle, pourquoi? Mais je pense qu'il peut y avoir un défaut de donner des messages d'encouragement parce que bah, ça fait plaisir, en fait, de le recevoir. Plutôt que de reprendre une claque dans la figure, autant prendre un message d'encouragement. C'est plus sympa. Donc du coup, comme l'accueil est bon, on peut avoir tendance à tomber dans des trucs qui sont toujours de l'encouragement, de l'encouragement. Et je pense que régulièrement, on a besoin d'une claque aussi pour se réveiller, pour se relever et pour repartir faire quelque chose. Mais voilà, de temps en temps, on a besoin d'encouragement et je pense que j'en avais besoin aussi. Habituellement, je prépare les trucs relativement en avance et là, ça s'est fait hier, mais hier jusque dans l'après-midi et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'avais ce passage de 1 Samuel 13 et 14 en tête sans réussir à décortiquer. Et quand j'ai relu ça hier et que j'ai mis ça par rapport à ce que mon collègue m'a dit, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, Seigneur. En fait, c'était pour moi et t'attendais que mon collègue me dise ça pour que je puisse y aller. Mais voilà, on a besoin d'encouragement aussi, donc je vous laisse comme ça. La Bible, elle nous demande de nous exhorter les uns les autres. Hein. L'encouragement, c'est aussi une preuve d'amour. Donc, pour contrebalancer mon idée de ne pas en donner tout le temps. Hein, mais voilà, il faut. On est là aussi, je pense, en tant qu'ancien, pour encourager l'Église, pour la fortifier. Juste rapidement, hein. Saül, Jonathan. À qui est-ce qu'on veut ressembler? Je vous laisse avec cette question-là. On a, allez, 2 minutes juste pour prier le Seigneur et lui demander qu'il nous donne cette foi comme Jonathan. Et comme David, pour aller remporter des victoires spirituelles avant tout, hein, mais ça aura des répercussions sur notre vie, c'est inévitable, sur le restant de notre vie, en fait, sur notre travail, sur notre famille, sur nos amis, sur absolument tout. Donc Voilà, il faut vraiment qu'on se rapproche du Seigneur et qu'on cherche à le connaître. Jonathan comme David, ils s'appuient sur leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Seigneur, ils savent comment il est. David, qu'est-ce qu'il dit aux Philistins? C'est pas Israël que t'as insulté, c'est le Dieu d'Israël. Et il ne tolérera pas ça, il ne peut pas le tolérer. Donc il va me donner la victoire. Il connaît le Seigneur, il sait comment il est. Et là, Jonathan, c'est pareil, il sait comment Dieu il est. Et donc il s'appuie sur lui. Donc je veux nous encourager à connaître le Seigneur et à grandir dans sa connaissance.